BW. Vue d'Allemagne.
Aujourd'hui, dans Vue d'Allemagne, on reparle de l'extrême droite avec une illustration de ce que la haine peut entraîner comme violence. En 2015, un groupuscule néo-nazi a mené des attaques contre des réfugiés et ceux qui les aidaient. Plusieurs des membres ou soutiens du groupe de Freital comparaissent depuis cette semaine devant la justice. En deuxième partie, on vous emmène dans les coulisses de la cuisine japonaise, des sushis imprimés en 3D et des femmes derrière les fourneaux de grands restaurants. C'est une petite révolution au pays du soleil levant. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. Il y a 20 ans, le 9 septembre 2000, Enver Şimşek, un vendeur de fleurs d'origine turque, était assassiné près de Nuremberg, dans le sud de l'Allemagne. Première victime de la pire série de meurtres xénophobes qu'a connu le pays. 10 personnes, dont 9 d'origine immigrée, assassinées entre 2000 et 2007 par un groupuscule néo-nazi, la NSU. Une affaire qui a non seulement fait éclater au grand jour le problème de l'extrême droite violente en Allemagne, 10 ans seulement après le premier meurtre, mais qui a aussi surtout révélé les défaillances de la surveillance des milieux extrémistes. Contrairement à la NSU, les membres du groupe Freital, eux, n'ont tué personne, mais ils ont semé la terreur pendant plusieurs mois dans cette ville de l'Est de l'Allemagne, en s'attaquant à des foyers de demandeurs d'asile ou à des militants favorables à l'accueil des réfugiés. Steffi Brachtel était l'une de leurs victimes.
Los ging es mit Beleidigungen im Internet.
Ça a commencé par des insultes sur Internet, puis j'ai eu le sentiment d'être surveillée. En août 2015, ma boîte aux lettres a explosé. Il a été prouvé que c'était le groupe Freital. Et mon fils a été attaqué par un d'entre eux qui a comparu au premier procès. On se sent complètement impuissant.
Les 8 principaux acteurs du groupe, tous des habitants de la ville, ont été jugés lors d'un premier procès en 2018. Le tribunal de Dresde a estimé qu'ils faisaient partie d'un groupe terroriste qui cherchait à répandre un climat de peur. Un des attentats vise à l'époque un foyer d'accueil de réfugiés. La charge artisanale est déposée sur le rebord d'une fenêtre. L'explosion fait un blessé. Les autorités locales relativisent dans un premier temps la gravité des actes. Le maire de la ville, mais aussi de nombreux responsables politiques locaux, semblent davantage préoccupés par la mauvaise publicité dans les médias que par le déferlement de haine sur leur ville. On parle alors de pétards, d'actes répréhensibles menés par un petit groupe de vauriens. À l'époque, Michael Richter siège au conseil municipal pour le groupe Die Linke et milite aux côtés de Steffi Brachtel pour l'accueil des réfugiés. Un jour, sa voiture explose.
J'ai lu les dossiers, ces gens savaient tout de mes moindres déplacements. Après l'attentat sur mon véhicule, ils prévoyaient de me faire sauter avec ma nouvelle voiture. Ils savaient tout.
La lecture des dossiers a permis à Michael Richter d'apprendre que son propre voisin était informateur pour le groupe Freital. Il a été tellement choqué par ses découvertes qu'il a décidé de quitter Freital en 2017 pour s'installer en Bavière.
Je vis maintenant libéré. Je peux exprimer mon opinion librement, même si être de gauche est plutôt une exception en Bavière.
Alors que le deuxième procès vient de s'ouvrir à Dresde, Michael Richter espère que les derniers doutes seront levés sur le groupe et ses intentions.
J'attends de ce deuxième procès que ceux qui sont encore sceptiques se réveillent et comprennent qu'il y a eu plus que quelques vauriens. Je ne pense pas que tous les responsables aient été arrêtés. Je m'attends à ce qu'il y ait forcément une troisième mise en accusation.
Steffi Brachtel, elle, n'a pas quitté Freital, mais elle garde les traces de cette période traumatisante.
J'ai toujours traversé la vie avec assurance, et puis un jour, la menace se rapproche, et on lit sur Internet des insultes et des informations sur sa famille. On devient paranoïaque. On se demande par exemple, qu'est-ce qui m'attend derrière la prochaine voiture, ou quand la porte de l'ascenseur s'ouvrira. On devient alors plus attentif, et on a constamment l'impression qu'il va se passer quelque chose, et on s'inquiète pour ses parents, amis et famille.
Selon Steffi Brachtel, le premier procès a fait prendre conscience à certains habitants de Freital que les actes du groupe relevaient de l'extrémisme et du terrorisme. Elle n'est toutefois pas certaine que la ville ait tiré les enseignements de cette expérience.
Ce
qui s'est passé ici, c'est du terrorisme d'extrême droite. Il faut le dire. On ne parle pas du fait que ma boîte aux lettres a explosé parce qu'on y avait mis des pétards. Non, c'était des explosifs. Je crois que cela pourrait de nouveau arriver. On a juste accusé le sommet de l'iceberg. Il y a encore beaucoup de gens en ville qui les soutiennent et qui les ont applaudis. Oui, le danger est encore là.
5 ans après les événements, le parti d'extrême droite AFD est le groupe politique qui compte le plus d'élus au conseil municipal renouvelé en 2019. La moitié des 8 accusés du premier procès du groupe Freital ont été remis en liberté conditionnelle. Le deuxième procès, dans lequel comparaissent 3 hommes et une femme, doit durer jusqu'au début de l'année prochaine. Allemagne, deuxième partie, avec un sujet un peu plus digeste, beaucoup plus digeste même, puisqu'on vous propose de découvrir la cuisine japonaise, réputée pour sa légèreté. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cuisine washoku, qui désigne les traditions culinaires japonaises, fait partie des plus grandes fiertés du Japon. Le pays du soleil levant met un point d'honneur à valoriser ses traditions ancestrales, mais elle aime aussi cultiver ses coutumes tout en s'assurant être à la pointe de la technologie. Cet état d'esprit influence grandement la gastronomie en quête incessante de modernité. Le vent du changement souffle dans les assiettes, mais aussi plus lentement derrière les fourneaux. C'est un reportage de notre correspondante Emmy Elio à Tokyo.
Tout est prêt pour une séance de cuisine un peu particulière. Ici, ce sont des ingénieurs qui sont au fourneau. L'équipe d'Open Meals s'affaire dans l'atelier. L'entreprise s'est spécialisée dans la conception d'aliments du futur et vient de mettre au point son tout nouveau projet, concevoir la pâtisserie japonaise du 21e siècle. Le wagashi est un petit gâteau de riz qu'on déguste depuis des siècles à l'heure du thé, sauf qu'ici, leur cyber wagashi est confectionné grâce à un logiciel et une imprimante 3D. Yasuhiro Ojino, ingénieur de l'équipe.
L'aspect est déterminé par des données climatiques. Plus la température est élevée, plus ça devient rouge. Et le relief est lié à la vitesse du vent.
Des sondes installées à Tokyo enregistrent le temps qu'il fait en ville. Par le biais d'algorithmes, ces données sont ensuite converties en un modèle 3D de gâteau prêt à être imprimé. L'équipe a travaillé avec une chef qui a conçu une pâte de riz spécialement adaptée à cette pâtisserie du futur.
Il ne fallait pas que ce soit trop dur ni trop mou. Il fallait aussi que ce soit imprimable et joli.
L'impression démarre. En quelques minutes, un dessert aux allures de cyclone de quelques centimètres de haut apparaît. Sa couleur rouge et son sommet aiguisé représentent les températures caniculaires de cette chaude journée de fin d'été, bien loin des normales saisonnières. Au Japon, la tradition veut que la pâtisserie wagashi soit en accord avec la saison en cours. L'équipe revisite cette tradition et incite à réfléchir au dérèglement climatique.
Digitaliser la nourriture permet de lui donner d'autres fonctions. On voudrait que les gens réfléchissent au changement du climat et modifient leur comportement.
La cuisine japonaise se modernise dans les assiettes, mais aussi derrière les comptoirs. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire carrière en cuisine, un secteur dont elles ont longtemps été exclues au Japon. Dans le quartier d'Akihabara de Tokyo, le fief des amateurs de jeux vidéo, la photo d'une jeune femme vêtue d'un élégant kimono placardé sur la façade d'un immeuble rompt avec l'atmosphère électronique des lieux. On pourrait presque croire à la signalétique d'un ryotei, ces maisons où se produisent les geishas. Eh bien, pas du tout. La maîtresse des lieux n'est autre qu'une chef sushi. Yuki Shidui est la première spécialiste à avoir ouvert son restaurant au Japon en 2010. Un véritable pied de nez à la tradition. Les japonaises n'y auraient pas leur place.
Au Japon, le monde des sushis est un domaine réservé aux hommes depuis très longtemps, car on considère que c'est un métier difficile et physique qui n'est pas fait pour les femmes. Il faut rester debout, faire de longs horaires et porter des objets lourds.
Ses préjugés, elle les balaye d'un revers de manche de kimono qu'elle relève avec élégance lorsqu'elle s'attelle à la découpe de légumes. Ils accompagneront ses assortiments de sushis qu'elle agence comme des tableaux. La jeune pionnière a, au fil du temps, inventé son propre style.
Quand j'ai commencé, il n'y avait aucun autre restaurant dirigé par des femmes chefs. Je ne savais pas à quoi cela pouvait ressembler. Alors j'ai eu l'idée de porter un kimono, comme celui que je porte en ce moment, et j'ai commencé à imaginer des sushis créatifs, joliment disposés. respecter, car les sushis sont pour moi une forme d'art.
Bien décidée à donner un coup de pouce aux femmes dans ce secteur, Yuki Shidui a choisi sa brigade 100% féminine.
J'ai réalisé que rien ne changeait dans ce domaine, alors j'ai décidé d'avoir une équipe uniquement composée de femmes. Toutes ensemble, nous avons expérimenté beaucoup de choses, nous avons mis au point de nouveaux concepts et de nouveaux plats. Je crois qu'une équipe de femmes qui travaillent ensemble fonctionne très bien.
L'exemple de la chef inspire aujourd'hui la nouvelle génération. Près du quartier Tsukiji, qui abritait autrefois le marché aux poissons, la Sushi Academy de Tokyo forme chaque année plusieurs dizaines de chefs, parmi eux de plus en plus de femmes. Hiroko Ishii a fait ses armes en Europe avant de rentrer pour enseigner l'art du sushi et soutenir les femmes prêtes à bousculer les stéréotypes.
Les gens plus âgés refusent de manger des sushis confectionnés par des femmes car celles-ci mettent du maquillage et ils disent que cela pourrait se retrouver dans les plats. Ils disent aussi que la température du corps des femmes est différente et que cela va influencer le goût des sushis. Mais tout cela n'a aucun sens.
Il y a plus de 10 ans, les étudiantes faisaient figure d'exception. Elles représentent aujourd'hui jusqu'à un quart des participants. La chef espère voir progresser la courbe encore davantage.
Le pourcentage de femmes qui assistent à nos cours augmente, mais il y a encore souvent des cours où il n'y a que des hommes. Et beaucoup de femmes préfèrent partir pour être chef à l'étranger. Elles ne veulent pas rester au Japon, en fait, car le marché du travail n'est pas bon.
Au Japon, les discriminations dans ce domaine restent profondes. Selon le rapport 2020 du Forum économique mondial sur les inégalités hommes-femmes, le Japon pointe à la 115e place sur 153. Emilio à Tokyo pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, abonnez-vous au podcast sur notre site dw.com/français. Partagez nos magazines sur les réseaux sociaux. Et surtout, portez-vous bien. Tchuss !